Bonsoir, c'est Jean-Marie Marcos pour Invitation au bonheur sur Radio Axe. Eh bien, dans ma nouvelle émission hebdomadaire, j'ai chaque semaine un invité différent. Et cet invité est particulier ce soir parce que cet invité m'a d'abord invité dans son émission. Cet invité m'a aussi proposé de participer à certaines de ses émissions aussi, comme ça, au pied levé quelquefois. Et cet invité, eh bien, vous le connaissez bien puisque c'est le célébrissime animateur de Bel Passage. Et donc son nom, c'est
Michel Jean-Louis.
Michel Jean-Louis est avec moi ce soir, est avec nous ce soir pour parler du bonheur ensemble. Et le bonheur est un sujet qui l'intéresse, Michel.
Oui, à plus d'un titre.
À plus d'un titre, ça veut dire, dis-moi tout.
Oui, c'est-à-dire que le bonheur... Bon, je pense que tu es en train de me poser une question assez alambiquée ce soir.
Pourquoi alambiquée? Je pose la question sur le bonheur.
On peut répondre par pantalonnade, par métaphore. Comment veux-tu que je te parle du bonheur?
Alors, toutes les réponses sont acceptées, y compris les métaphores pantalonnées.
Bon, effectivement, le bonheur, pour moi, c'est quelque chose... d'abstrait. C'est comme si tu me dirais d'aller chercher les étoiles.
Oui.
C'est quelque chose qui est pas palpable pour moi, le bonheur.
C'est pas quelque chose de tangible, de palpable?
Oui, le bonheur, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est, il y a des gens, par exemple, je connais des SDF, ils me disent qu'ils préfèrent rester dans la rue parce que ils se sentent bien là, c'est leur bonheur. Et nous, l'œil extérieur dit, mais, ces pauvres bougla, ils vont mourir. Non, mais eux, c'est leur bonheur de rester dans la rue. Oui. Ils disent qu'ils préfèrent. Ils se sont, comment dirais-je, adaptés tellement. Ils pensent que être dans la rue, c'est fuir l'hypocrisie, c'est fuir les problèmes, c'est... Tu vois?
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de biens matériels, donc par rapport aux critères de bonheur qui seraient des critères matériels, eux,
ça
ils les ont
bien
pas.
Comme ça.
Mais qu'est-ce qu'ils ont, du coup, que n'ont pas ceux qui ont les biens matériels?
Eh bien, la liberté.
Ils ont la liberté.
Oui, ils ont une certaine liberté. La liberté de nous critiquer, de vociférer sur nous par rapport à ce qu'on a. Et on croit être de le bonheur, mais on peut avoir une belle bagnole et être malheureux. Avoir une belle femme et être malheureux. Avoir un beau boulot et être malheureux dans le boulot.
Et donc...
Le bonheur aussi, c'est chaque fois qu'on donne une pièce. Pour eux, c'est du bonheur aussi, tu vois ce que je veux dire.
D'accord, ça veut dire aussi qu'ils sont heureux de recevoir.
Ouais, heureux de recevoir.
C'est important aussi ça, parce qu'on peut être heureux de donner. La générosité, ça rend heureux.
Oui.
On peut être aussi heureux de recevoir. Est-ce qu'il y a un bonheur à recevoir aussi, à savoir recevoir?
Et oui, il faut savoir donner pour recevoir justement. Et des fois, le paradoxe, c'est qu'on est tellement malheureux à force qu'on a donné et on reçoit rien.
Mais est-ce que ça veut dire...
Et à force de donner aussi, on se lasse de donner puisqu'on dit, on donne parfois des ingrats.
Alors, ça m'intéresse particulièrement. On peut s'arrêter un peu là-dessus, sur cette notion-là?
Oui.
Parce que c'est un sujet, en effet, moi qui me titille assez particulier, de façon particulière. Lorsqu'on décide de donner, si on est dans la générosité, est-ce que le fait de donner, si on est généreux et que l'on donne, est-ce que on attend un retour?
Non, pas forcément. Moi, ma philosophie, je donne pour donner. Mais des fois, tu vois, quand tu donnes à des gens qui prennent ça pour un habit de faiblesse, quoi. Des profiteurs. Ça m'est arrivé.
Oui, bien sûr. Ça peut nous arriver à tous.
Oui.
On sait, en effet. On sait, en effet, que si on fait confiance à tout le monde, et si on est généreux avec tout le monde, en effet, on peut être déçu de temps en temps.
Oui, de certains comportements,
Mais maintenant, si on n'est jamais généreux, ou c'est toujours dans l'attente, si on n'est pas dans la confiance, si on est dans la méfiance, je pense qu'on est aussi malheureux tout le temps, à ce moment-là.
Oui, avant...
Ça peut être un choix.
Oui, avant, je lâchais facilement. Mais à force d'être gougé, à un moment donné, tu te renfermes dans ta coquille, tu deviens ermite, un peu...
Ouais, parce que,
tu t'enfermes de ta coquille.
Parce que tu es dans la méfiance.
Le syndrome de l'huître, tu t'enfermes, De la méfiance.
Tu es dans la méfiance, c'est ça?
Oui, comme on dit, les bons paient pour les mauvais, des fois aussi.
Ouais.
Mais des fois, le naturel revient au galop. C'est des périodes comme ça, j'ai des périodes où je me recouvre, puis après, je dis bon, laisse tomber. Parce que je suis malheureux comme ça, finalement.
Moi, j'essaie de
Parce que c'est ma vraie nature de donner. Mais des fois, tu te dis bon, faut que la personne, que tu marques le coup quand même pour qu'ils sentent que il y a une cassure, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais la personne ne va jamais se remettre en question, hein, ne pense pas ça.
Mais est-ce que c'est, finalement c'est ça le plus important? Est-ce que pas le plus important, c'est pas justement le rapport qu'on a avec soi-même par rapport à la générosité, par rapport au don?
Oui, mais on ne se connaît vraiment pas, des fois.
Oui, on continue à se découvrir.
Oui, des fois, il y a des zones d'ombre en nous qui ne sont pas perceptibles de nous-mêmes.
Mais du coup, c'est intéressant. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de râler à un moment donné parce que je sais pas, par exemple, je m'arrête pour laisser passer quelqu'un et je me dis, tiens, cette personne m'a même pas fait un sourire, même pas un merci, un signe de tête, ça ne coûte rien. Et je me suis posé la question, mais finalement, est-ce que je me suis arrêté pour la laisser passer parce que j'attendais ça? Est-ce que j'attendais de sa part une forme de reconnaissance ou de considération? Et dans ce cas-là, ma générosité, elle était un peu intéressée quand même. Ça veut dire que je n'étais pas dans la générosité pure. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et maintenant, en effet, je fais cet effort aussi, et finalement, c'est assez facile de me dire, tiens, je vais laisser passer cette personne. Si elle me fait un sourire, c'est un cadeau. Et si elle le fait pas, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est ce que j'ai fait, c'est pas ce que la personne fait. Et ça, c'est un pas, peut-être vers un peu plus de sagesse, un peu plus de sérénité, et qui fait qu'on continue à être soi-même, parce que tu disais tout à l'heure du SDF qui était heureux, pourquoi? Parce que il n'avait pas de compte à rendre, et qu'il pouvait finalement être en accord avec ses propres valeurs, alors que la société l'obligeait à renier ses valeurs au quotidien. Mais je pense qu'on est aussi heureux quand on est complètement aligné avec soi-même. Quand on est en accord, ce que j'appelle la congruence dans mon métier, c'est-à-dire que lorsqu'on met en accord ses croyances profondes, lorsqu'on met en accord ses pensées avec ses paroles et avec ses actes.
Oui.
Et ça s'appelle la congruence. Et à ce moment-là, eh bien, même si des personnes cherchaient à nous gruger, nous arnaquer, etc., c'est pas grave, on les regarde en disant, finalement, c'est elles qui sont dans le tort, c'est pas moi, et finalement, elles sont pas heureuses en faisant ça. Donc c'est pas grave, je passe à quelque chose d'autre. Oui. Simplement, elles m'ont aidé. Merci à ces personnes. Elles m'ont aidé à être un peu plus vigilant et d'être généreux, d'être bon, d'être gentil, mais peut-être moins naïf et moins influençable.
Oui.
Et peut-être que c'est ça un pas vers la sagesse. Qu'est-ce que tu en dis?
Et oui, mais j'aime bien d'avoir évoqué la voiture là. Les gens passent, c'est même pas merci du tout. Et moi, mais c'est vraiment voiture quand tu vois le comportement des gens. Des fois, tu rigoles, il y a des choses qui sont vraiment burlesques. Il m'arrive une fois, par exemple, tu roules tranquillement, vitesse autorisée, 40, tout doucement, et puis il y a un gus qui te double, et puis qui te klaxonne, et puis après, tu le rencontres dans le feu rouge. Et puis vous êtes côte à côte et puis tu fais tout. Oui.
C'est, ça,
ouais, du
ça,
coup, nous, du bout.
Ça nous parle de voilà de du peu d'intérêt finalement.
Ouais, plus d'intérêt pour les choses quoi. Ouais.
Après même c'est plutôt on peut le regarder non pas avec cet esprit de vengeance en disant tu vois finalement ça sert à rien.
Non mais c'est de dérision
dire,
quoi.
De dire, enfin, quel dommage quoi parce que tu vois t'as pris des risques et puis, pourquoi finalement pour gagner quoi pour finalement être coincé derrière moi etc ou devant
non,
moi,
non.
au feu rouge
à côté de moi coincé,
ouais ou à côté au feu rouge
et donc, tu dis même pas
il y a un côté dérisoire finalement à vouloir aussi accélérer le temps accélérer et dans ce genre d'attitude je pense que c'est ça qui peut être aussi ça peut nourrir notre réflexion. Je pense que on parlait aussi du bonheur, le bonheur c'est aussi finalement de trouver dans tous ces petits moments de la vie les plus simples comme d'y trouver un peu de dérision, un peu d'humour aussi.
Rire du ridicule aussi.
Et pourquoi pas, et en tout cas de savoir l'analyser et de se dire mais j'ai quelque chose à apprendre de ça et comme un pas de plus
tirer, quoi,
voilà sur un chemin de je tiens beaucoup à ça, une espèce de chemin de sagesse, tu vois. Et ça nous fait donner moins envie de vengeance, moins envie de porter un jugement, de porter des préjugés sur les gens, des a priori, en disant les gens sont comme ça. Et je pense que si des gens ont des attitudes qui ne nous correspondent pas, qui nous heurtent, qui nous choquent quelquefois, Marshall Rosenberg, qui est à l'origine de la communication non violente, disait ben voilà, lorsque des gens font des choses vraiment qui sont contre nos valeurs, nos façons de penser, etc. Il faut se dire que à ce moment-là, pour cette personne, c'est ce qu'elle peut faire de mieux. Parce que on n'a pas vécu sa vie, on n'a pas vécu son enfance, son adolescence, on n'a pas vécu toutes les situations qu'elle a vécues, et donc peut-être que si on avait vécu ça, on ferait comme elle. C'est vrai de se garder du jugement vis-à-vis de
Hâtif,
quelqu'un
quoi,
qui fait quelque chose qui pourtant nous choquerait et pourtant qu'on ne se permettrait jamais de faire.
Oui, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois que les gens qui s'attachent vraiment à faire du mal aux autres, ce sont des gens qui sont vraiment malheureux. Tu m'as dit une fois qu'il fallait les excuser. Pas finalement, ce sont des gens qui sont malheureux. Ils sont malheureux de ton bonheur et ils se font mal.
Bien sûr, parce que ça peut nous arriver à tous, ça, en fait. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas bien, eh bien, on peut avoir tendance. Hein, tout le monde ne le fait pas, bien sûr. Il y a des gens qui s'ouvrent et qui continuent à être agréables et généreux et à distribuer du bonheur autour d'eux. Parce que les gens heureux sont pas des gens qui n'ont pas de malheur. Ce sont des gens qui vivent leur malheur différemment. Mais il y a aussi des personnes, du coup, qui vont développer une forme, voilà, de victimisation aussi dans tout ce qui leur arrive est forcément de la faute des autres. Ouais. Et je pense que sans leur apporter de pitié, qui est aussi, voilà, une forme de jugement, mais simplement on peut dire quel dommage, parce que si ces personnes étaient heureuses, peut-être elles n'auraient pas cette attitude-là.
Ouais. Voilà. Donc le mode de communication, pour eux, c'est la destruction de l'autre, quoi.
Oui, parce que pour certaines personnes, c'est tout ce qu'elles ont trouvé, en effet, pour se rehausser.
Donc,
c'est
se valoriser, quoi.
Se valoriser. Donc, c'est pas le signe de quelqu'un qui est épanoui et qui est heureux. Ce n'est pas possible.
Ouais, une sorte de vampirisation du bonheur de l'autre, quoi.
Alors après, ça peut nous arriver tous. Par exemple, si quelqu'un vit une rupture amoureuse, et qui est vraiment, qui souffre, qui est touché au fond de lui-même, etc. Mais si cette personne passe devant un couple de jeunes amoureux qui se bécotent sur un banc public, comme disait Brassens, ça peut lui faire du mal.
Et puis éveiller certaines blessures enfouies, quoi.
Absolument. Et pourtant, ce petit couple n'y est pour rien.
Oui.
D'accord. Ça nous appartient. Donc nos difficultés, nos malheurs nous appartiennent, en fait. Et c'est important aussi de se les réapproprier pour ne pas accuser les autres de tous les malheurs que nous possédons. Mmh. J'avais une autre question aussi, parce que tu es un homme d'âge mûr, on va dire.
Oui.
D'accord. Est-ce que la notion de bonheur a changé avec le temps chez toi, au fur et à mesure de tes différents âges de vie?
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque de ma vie, j'étais très, très turbulent. J'avais des amis comme moi, turbulents. On était une bande de gamins à l'époque au François, au Bouffon Martinique. On faisait les 400 coups, mais c'était bien ciblé quand même. On n'était pas des voyous, mais on était gentils, teufs. Tu sais, les Tom Sawyer, toute la bonne,
voilà,
quoi.
Tu t'es bien amusé.
Mais puis, à mesure, si tu prends de l'âge, et puis tu t'assagis, tu te dis, c'est une période qui manque quand même, quoi. Mais tu vois, quand tu te remémores certaines choses avec tes copains, quand tu les vois sur Facebook, on rigole, quoi.
C'était quoi le bonheur à l'époque pour toi?
L'insouciance. On était chez papa, maman, c'était l'insouciance. Hein? Faire chier le monde, bien, mais avec toujours dans la comédie, dans le burlesque, comme ça, c'était
un peu d'inconscience, de la joie de vivre pure, choses simples.
Oui, passer par les frapper Jean-Fier Pépé, et puis te course avec du caillou, tu comme ça, allez voler les cannes des béquets, les cannes à sucre des béquets, tu comme ça.
D'accord. Alors pour nos auditeurs, alors les béquets, c'est quoi?
Ben, c'était les colons blancs qui étaient venus s'installer aux Antilles. Ils avaient beaucoup de thé, ils avaient des cannes à sucre à l'époque. Alors, des cannes à sucre. Alors, donc, on allait dans le champ pour quelques cannes, et puis nous coursons à l'époque avec des chevaux à l'époque. On était gamins.
Et donc, vous aviez des chevaux? Tu faisais du cheval?
Non. Ou le béquet, ils avaient des...
Ah, les chevaux, les béquets avaient des courses, des chevaux.
Oui, les chevaux.
Et sinon, tu jouais dans la rivière, tu jouais...
Oui, partout, on allait partout. À la plage, puisqu'au François, on a beaucoup d'îlets au François. Alors, donc, avec les copains, on allait en bateau sur les îles, on passait la journée là, c'était bien. Puis avec le petit ponche avec, tout ça...
Ah, mais là, c'était plus tard quand même. C'était pas quand tu étais enfant quand même, ça.
Non, nous commençons tôt, vers 10, on commence à goûter quand même, hein.
Ah ouais.
Ou le fond des verres des vieux. T'as pas connu ça, toi?
Ah non, pas du tout, non.
Ben oui. Non, il y avait pas que ça. Il y avait les parties de pêche, les parties de, la pêche au crabe, comme disait Tandiratière, c'était des pièges à crabe, tu comme ça, on passait la nuit, à chasser le crabe. Bon, des fois, il y avait des mecs qui avaient le sac rempli de crabe et puis dormaient dessus. Alors, donc, nous, on les levait toutes les semaines, puis on prenait le... Non, c'était à l'époque, il n'y avait pas autant de... Comment te dire ça? On était bien. On avait cette éducation quand même. Malgré qu'on était comme ça, on respectait nos parents. Tu vois, on respectait.
D'accord.
On respectait, on était voyous, mais quand on était à la maison... Et puis on voit les anciens, on était comme comme des anges, c'est pas comme les.
Il y avait le respect.
Oui, il y avait le respect des anciens. Ah ouais, c'est pas comme maintenant. Maintenant c'est il y a aucune valeur. Les gamins sont dépravés, c'est des voyous en herbe. Hein, nous quand je disais voyous, nous c'était chambouler le pépé qui était un peu saoul et puis ça partait, puis nous injuriait et puis tout le monde rigolait, comme ça quoi. Le carnaval. Aux Antilles, on s'habillait en femme avec des soutiens-gorge, des kilos de filles, nous les garçons, tout ça, c'était... ouais, c'était la joie, c'était le bonheur, quoi, à l'époque.
Et l'école, t'as des souvenirs d'école?
Oui, à l'école, bon, j'étais pas mal, j'étais bon élève à l'école. Mais l'anecdote la plus hilarante, c'était avec Monsieur Tarot, c'était notre prof d'histoire européen à l'époque. Et c'était un fou d'histoire. Quand il racontait une histoire, le mec, il vivait l'histoire. Et puis nous, tu sais, le gamin, on était accroché à ses lèvres. Et puis, il nous parlait de la révolution de 1789. Et où le Louis XVI était parti et avait quitté Paris. Et puis, on l'avait chopé à Varennes.
Oui.
Ça ne s'est couché avec le général. Alors, donc, il dit comme ça. Eh ben oui, et soudain, il reconnut le roi. Aussitôt, il prit son téléphone et téléphone à Paris. Je dis, monsieur, pas de téléphone. Il m'a foutu une baffe et il m'a dit de prendre sa place. Non, c'était comme ça, quoi.
C'était des téléphones en bois à l'époque.
Non, c'était comme ça.
Non, c'était très drôle. Alors, dis-moi, on arrive à peu près au milieu de l'émission, là, et je t'avais demandé de venir avec un titre. Et donc, tu as choisi quel titre aujourd'hui pour nous faire écouter un titre qui te rend heureux, qui te met en joie?
Oui, c'est la joie de chanteur que j'aime bien. Jean-Michel Cabimol, c'est un ambianceur. Il avait un groupe, La Mafia.
Alors, on lance, c'est la joie.
C'est la joie.
C'est la joie.
36-15.
C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie.
Ce titre bien dansant, hein, qui fait plaisir. Dis-moi, pourquoi ce titre et pourquoi pas un autre? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi celui-ci aujourd'hui?
Non, parce que le thème de l'émission, c'est la joie, c'est le bonheur. Ouais. C'est la joie, c'est le bonheur. C'est pour ça que je t'ai amené ce titre, pour te faire écouter ça, parce que là-bas, il faut voir le clip qui va avec. Le clip est tourné, je crois, à Tartane. Martinique, une belle plage, tu vois la plage, tu vois les enfants sous la plage, tout ça, c'est...
Donc, chers auditeurs, allez voir le clip de C'est la joie. D'accord,
ouais, de Jean-Michel Cabrimol, La Mafia.
Jean-Michel Cabrimol.
Oui.
Très bien. Alors, on revient maintenant un peu sur la notion de bonheur. Et, bah, toi, qu'est-ce que la maturité et qu'est-ce que le fait de grandir, de venir ensuite en France, d'avoir une famille, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le bonheur, finalement?
Bon, faut que le bonheur, des fois, faut pas le chercher. Il vient tout seul, des fois.
Il vient tout seul?
Oui.
D'accord.
Faut pas courir après, ça arrive comme un voleur. Ça arrive
donc,
comme ça.
Dis, voilà, donc,
ça te prévient pas.
C'est quelque chose à la fois d'inaccessible,
oui,
comme
oui.
Tu disais tout à l'heure, comme une étoile. Hein,
et puis ça arrive, et puis...
Et en même temps, le bonheur, il arrive, comme ça.
Tu sais même pas que c'est du bonheur, tu penses que c'est quelque chose de naturel, mais c'est du bonheur, quoi. Tu vois?
À ta place, il y avait un de mes amis il y a deux semaines, Kevin, qui disait qu'il était un jeune papa en fait, et qui disait ben, le fait d'être papa lui avait en effet, il avait perdu l'insouciance. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose qui t'a marqué, le fait de fonder une famille? Est-ce que t'avais une vision du bonheur du coup qui est devenue différente d'un seul coup?
Oui, bon, c'est déjà je ne m'attendais pas à avoir d'enfant et j'en ai eu.
Oui. Donc
c'était
une surprise, une bénédiction.
Bof, une bénédiction. Et puis pour la première fille, c'était un peu dur de la mesure où, au départ, c'était un bonheur que j'attendais et ça s'est ensuite transformé en cauchemar puisque elle est née malentendante.
Oui.
Donc il y a eu toute cette frustration à gérer. Cette prestation et puis faire le deuil de l'enfant parfait entre guillemets.
Oui, parce qu'on ouais. le rêve ouais, d'abord, ouais, avant de l'avoir dans ses bras.
Donc il y a eu une longue période de stagnation où je n'arrivais plus, comment dirais-je, à me contrôler, à m'aimer.
D'accord, ça t'avait touché profondément.
Au sentiment de culpabilisation, quoi.
Ouais. Et pourtant, tu t'es
c'est un échec. Puis après, je me suis bien, comment dirais-je, je me suis bien accroché. Puis, maintenant, mon bébé, maintenant, a 22 ans. Puis c'est une battante.
Ouais, tu m'en parlais l'autre jour. Tu es très fier de ta fille.
Hein. Oui, très fier, ouais. Bof, on fait que la Chine de temps en temps, quoi. Ouais, c'est le jeu entre le père et la fille, quoi. Mais c'est du bonheur, quand même.
Bien sûr que c'est du bonheur. Et donc, si tu devais symboliser le bonheur avec un objet, ça serait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui symboliserait pour toi le bonheur?
Un objet?
Oui.
Il y en a tellement.
Ah oui?
Il y en a tellement, je peux pas.
Est-ce que ce serait, je sais pas, moi, quand je pense à toi, je pense peut-être à une bouteille de punch à partager entre amis. Est-ce que le bonheur,
non,
c'est aussi ça?
Non, un bon bouquin. Moi, j'aimais bien lire. Moi, j'étais
fou de... Donc, le bonheur, c'est un livre.
Ouais. D'accord. Un livre. Mais ça fait longtemps que j'ai pas touché de bouquin. Mais avant, je lisais beaucoup. Hein.
D'accord.
Puisque le paternel avait une bibliothèque très riche. Les Stendhal, je peux te dire, les Boris Vian, tout ce que j'ai lu, Tolstoy, tout le truc. Anna Karenine.
Si tu devais emporter qu'un seul livre avec toi, ça serait lequel?
Le dernier que j'ai reçu de toi.
Ah oui. C'est malin, parce que du coup, tu pourrais l'écouter et le lire en même temps. Il est flatteur, ce Michel.
Non, pas flatteur, mais c'est vrai, c'est un vrai bouquin, quoi.
Très bien, tu sais, on va faire un petit exercice, là. C'est en fait que tu vas tirer une carte avec une question surprise. Et alors, je ne sais pas quelle est la question qui va tomber.
C'est le tarot de Marseille?
Non, pas du tout.
Ah, parce que
c'est juste une question et tu vas répondre à cette question. Donc c'est une question au hasard que tu tires.
Oui.
Alors quelle est cette question?
Raconte-moi une de tes grandes victoires.
Ah. Alors si tu devais choisir dans ta vie, voilà, une de tes grandes victoires, laquelle tu aurais envie de nous raconter en quelques mots?
Une grande victoire?
Oui.
Comment fait-il qu'un bègue comme moi arrive à faire de la radio maintenant, chez Nordine?
C'est une grande victoire.
Oui. Moi qui suis un grand timide, j'ai des problèmes, tu l'as remarqué, des problèmes d'élocution, mais avec la radio, j'arrive quand même, tu vois?
Bien sûr.
Parce que contrôler mon débit, parce que j'ai un débit qui est assez conséquent.
Oui.
Donc les gens n'arrivent pas à me comprendre. Mais avec la radio, j'arrive des fois, même si Nordine m'engueule des fois.
Oui.
C'est pas de radio, tu vois, mais tu vois, c'est... J'arrive quand même... On devrait dire que je suis à Radio Axe, je suis chez un orthophoniste, quoi. Ouais.
Donc c'est la radiothérapie.
Ça te permet de te révéler, ça te permet de vaincre ta timidité aussi, quoi.
Oui. Ouais. Donc la radio t'a beaucoup apporté.
Ouais, en fait. Ouais.
C'est vrai. Alors je partage aussi. Hein,
oui, puis l'ambiance qui règne, l'ambiance, la disponibilité de Nordine et puis tous les acteurs qui interviennent sur la radio, ça sont des mecs qui sont vachement bien, quoi. Qui sont.
Et des femmes.
Aussi. Ouais, ouais, les hommes et les femmes, quoi. Ils sont vachement compétents, puis vachement abordables.
Alors j'en profite aussi du coup pour merci Michel pour passer aussi une annonce. Si vous désirez vous aussi participer à cette émission et échanger avec moi comme ça autour oui. autour du bonheur, eh bien n'hésitez pas, hein, contactez-moi soit directement. Ou à travers mon site, ou bien à travers aussi le site de Radio Axe, et j'aurai plaisir aussi à vous recevoir.
Oui, c'est bien. du bonheur aussi de parler aux gens de sur les ondes de Radio Axe.
Oui,
et puis ça, un peu de bonheur aux gens de.
C'est du bonheur de le connaître. Faire, et c'est du bonheur aussi de d'avoir un retour aussi des personnes qui nous parlent de nos émissions, qui nous écoutent et qui nous donnent envie de continuer. C'est très encourageant. C'est très
Mais tu agréable. Sais que bon, les gens sont, comme je disais, faut pas attendre de retour les gens aussi, tu vois.
Ouais, mais bon, justement, gens, c'est un cadeau quand ça arrive.
Oui.
Quand on s'y attend pas. Comme le sourire.
J'espère que ça va arriver.
Alors moi, j'avais aussi, dans cette émission, avant de te quitter et de quitter les auditeurs, j'aime toujours aussi partager un petit conte de sagesse.
Oui.
Et ensuite, on terminera avec un titre de ma propre playlist du bonheur.
Oui.
Alors ce petit conte que j'ai choisi, il est d'Olivier Clerc et il me fait penser aussi à toi pour ces transformations que tu as vécues dans ta vie et que tu as vécues aussi grâce à Radio Axe.
Oui.
Et ça s'appelle La chenille et le papillon.
D'accord. Ah, la chenille et le papillon, mais c'est d'une chenille que naît le papillon.
Et oui. Alors, oui, l'histoire s'appelle La chenille et le papillon. Alors justement, ça nous parle des deux. Alors, ouais. Qui ne connaît pas la métaphore, tu en parlais tout à l'heure, et des pantalonnades, mais là on va parler que de métaphore, de la chenille et du papillon. Pourtant, on néglige de préciser un point important sur cette métamorphose si parlante. Dans son cocon, la chenille commence par se décomposer. Si vous observiez ce phénomène sans bien en connaître du processus, vous prendriez le cocon pour une tombe où une bestiole s'est enfermée pour mourir. Jamais vous n'imagineriez qu'à partir de cette bouillie de chenilles décomposées va se former un être ailé, plus évolué, qui au lieu de dévorer les feuilles des arbres deviendra un merveilleux pollinisateur. Les cellules qui déclenchent cette métamorphose s'appellent du joli nom de cellules imaginales. Cet exemple nous enseigne que parfois le changement pour le meilleur passe tout d'abord par une phase de chaos, de destruction, de décomposition. Le chaos et la destruction, justement, sont omniprésents autour de nous dans le monde d'aujourd'hui. L'histoire de la chenille laisse entrevoir l'éventualité que cette décomposition puisse être le prélude douloureux à l'émergence d'une humanité qui déploierait elle aussi ses ailes, symbole de faculté spirituelle. Et peut-être y a-t-il parmi nous de nombreuses cellules imaginales, ces créatifs culturels qui œuvrent à notre métamorphose collective. Donc voilà, pour moi, tu es une cellule imaginale. Tu fais partie des personnes qui aident à devenir des papillons, les autres.
Ouais, d'accord. Ah ben merci, c'est flatteur. Ouais. Papillon de nuit.
Et donc, papillon de nuit, probablement. Oui, oui. Mais papillon de jour, papillon de nuit. Et il porte bonheur, paraît-il, en plus, les papillons de nuit.
Oui, c'est ce que j'ai...
Alors, donc, eh bien, je vais vous inviter donc à écouter derrière le groupe Group Love et son titre Shark Attack. Et donc, je vais prendre congé de nos éditeurs et de mon invité Michel Jean-Louis. Donc, c'était Invitation au bonheur sur Radio Axe. Je vous attends la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, soyez heureux.
Yes. Merci Jean-Marie pour ton invitation. Donc là, je vais goûter un peu de bonheur là, chez Agnès, parce que je vais retrouver un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis 32 ans.
Waouh. Bonne soirée.
Oui.
Et à très bientôt, chers auditeurs, sur les ondes de Radio Axe.
Bonsoir à vous.